Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous étudions en ce moment, en communauté, dans les cours de théologie, les anges. C'est fort intéressant, et je voudrais vous faire part de certaines affirmations de saint Thomas d'Aquin à propos des bons anges et des mauvais anges. Tout d'abord, cette lutte extraordinaire qui eut lieu dès le début de la création du monde. Les anges furent créés dans un état de nature parfait et Dieu leur donna la grâce en même temps qu'il les créait. Mais il est évident que la liberté, la volonté de l'ange doit agréer au don qu'il lui a fait, doit accepter ce don qui est fait, et c'est là que se trouve un mystère extraordinaire, le mystère du péché, alors que deux tiers des bons anges ont remercié Dieu pour le don de la grâce. Ce faisant, ils ont mérité, c'est-à-dire que Dieu est allé plus loin et leur a donné la béatitude éternelle. Il s'est montré à eux face à face dans son essence divine, dans la Sainte Trinité. Les mauvais anges, qui comme toute créature ne voyaient encore Dieu, on pourrait dire d'une certaine façon que de l'extérieur, ça peut vous surprendre un peu, mes bien chers frères, parce que d'ailleurs, c'est une question que les frères ici m'ont posée, ils étaient un peu surpris. Et les anges voient Dieu, comment ont-ils pu refuser? Donc ils le voyaient au début encore de l'extérieur, la grâce leur est donnée aussitôt, et dans la grâce, Dieu se dévoile, et au moment où Dieu se dévoile, alors l'ange doit dire « Oh, que c'est beau, je suis d'accord, je reçois, je vous remercie mon Dieu ». En toute humilité de ce don extraordinaire que vous me faites, ou bien, si ce n'est pas le cas, alors l'ange refuse, et il se dit, soit je n'en ai pas besoin, je me limite à ce que j'ai déjà reçu par la nature, par la création, soit tout cela c'est bien beau, mais je n'ai pas à vous dire merci, Seigneur, car c'est tout à fait normal. On pense que c'est un tiers des anges qui tombèrent ainsi. Et saint Thomas pose deux questions qui paraissent peut-être anodines, et cependant pas du tout. Il pose la question, les bons anges sont-ils dans le ciel empyré? Le ciel empyré, c'est la voûte céleste, c'est une manière de parler. Mais c'est-à-dire, sont-ils dans un lieu céleste? Et il répond oui. Ils sont dans un lieu céleste parce que les bons anges, aux bons anges, a été confié le soin des créatures qui leur sont inférieures. De même que dans une famille, on confie les plus jeunes aux plus âgés, de même que les moines sont confiés au père abbé. Ainsi, Dieu, en créant les bons anges, qu'il a créés pour sa gloire, qu'il a créés par pur amour, et il n'en avait absolument pas besoin, il n'avait pas besoin de ses intermédiaires avec les hommes, il les a créés pour eux, mais créant les anges et les hommes, il était normal qu'il confiât les hommes à la garde des anges. Et donc, les anges sont dans le ciel supérieur, pour parler ainsi, et pourquoi? Parce qu'ils veillent au bon ordre des choses dans le monde, de la part de Dieu. Et saint Thomas pose ensuite une autre question. Les mauvais anges sont-ils dans l'air? Dans les airs. Déjà, remarquez, les bons anges sont dans le ciel supérieur. Les mauvais anges, il s'agit de l'air que nous respirons, l'air qui est autour de nous. La question revient à celle-ci. Les mauvais anges sont-ils tout autour de nous? Et saint Thomas répond oui. Pourquoi? Parce que les anges ont par nature, la charge de s'occuper de nous. Et Dieu aurait pu anéantir ce soin des anges auprès de nous lorsqu'ils sont tombés, je parle des démons, les mauvais anges, et il ne l'a pas voulu. Pourquoi ? La première raison, c'est que Dieu ne détruit pas son œuvre. Les anges ont failli, ils seront punis, mais ils ne sont pas détruits. La deuxième raison, nous dit saint Thomas, c'est qu'ils servent à révéler dans le combat la vertu des bons. Il y a donc un combat qui se poursuit. Ce combat n'est pas nouveau. De même que les anges ont eu à faire un choix qui paraît évident, mais le drame a quand même été là, puisque un grand nombre ne l'ont pas fait. De même, l'homme avait un choix à faire, et vous savez que l'homme n'a pas fait le bon choix. Comme l'ange, il a cru que cette perfection que Dieu lui donnait était tout à fait naturelle et qu'il n'avait pas besoin de lui dire merci, ce qui est une révolte, ce qui est la pire révolte. Vous remarquerez qu'on trouve cela chez certains enfants et surtout chez certains adolescents qui se croient, parce qu'ils deviennent grands, capables de se passer des parents et qui se croient autorisés à ne plus dire merci et qui croient que tout ce qu'ils ont après tout c'est tout à fait normal et qu'ils ne doivent rien à personne. Et donc les hommes ont eu à faire ce choix. Et les anges vont révéler la vertu des hommes en les faisant combattre. Donc, ce que je voulais vous faire remarquer, mes bien chers frères, c'est que Dieu, c'est la nature des êtres créés que d'avoir à faire des choix dramatiques. Et Dieu, non seulement ne supprime pas ce combat, et ne revient pas en arrière, mais Dieu va profiter de la chute des mauvais anges pour non pas éviter le combat, mais le rendre plus glorieux. Alors, il y a quelques conclusions à tirer de cela. La première, c'est que ce drame que nous vivons aujourd'hui, qui est un drame affreux, on se demande ce qu'il reste de la création de Dieu, du respect dû à Dieu. Ce drame, premièrement, n'est pas nouveau. Il y a eu bien pire avec la révolte des anges. Le péché des anges a été infiniment plus grave que toutes les révoltes des hommes. Et d'ailleurs, Dieu s'est penché vers les hommes pour les sauver. Il ne l'a pas fait pour les anges. Parce que les anges sont trop parfaits pour qu'ils puissent revenir en arrière. Deuxièmement, cette lutte va durer jusqu'à la fin du monde. Saint Thomas dit, lorsque le dernier homme aura vécu et qu'on arrivera à la fin du monde, alors la présence des démons dans l'air n'aura plus aucun sens, et par conséquent, ils seront tous refoulés aux enfers. En attendant, il y en a bien quelques-uns aux enfers pour punir ceux qui y sont déjà tombés. Mais à ce moment-là, tous ceux qui sont dans les airs seront refoulés aux enfers. Donc finalement, cette lutte que nous connaissons, mes bien chers frères, n'a pas de quoi nous surprendre. C'est parce que nous sommes comme des petites fourmis dans un champ de bataille. Nous n'avons pas la vue de l'ampleur de la bataille au niveau de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de la création. Il y a une deuxième chose, le combat est quasi nécessaire pour révéler la vertu des bons. Dans ce combat, ce combat nous est fort avantageux. Fort avantageux parce qu'il y a très certainement beaucoup d'actes de vertu que nous n'aurions pas fait si nous n'avions pas eu à nous battre contre les démons qui sont dans les airs. Démons qui ont leurs complices, et les modernistes sont d'excellents complices du démon. Donc si nous nous battons contre les modernistes, si nous nous battons contre les ennemis de la chrétienté, nous nous battons en réalité contre les complices du démon. Eh bien, ce combat va révéler les bons, et c'est comme pour le martyr. Les martyrs acquièrent une gloire, une couronne d'ailleurs, une couronne, la couronne du martyr, qui brillera éternellement au ciel. Il y a peut-être des saints plus grands que les martyrs, n'empêche que ceux qui sont passés par le martyr gagnent une couronne qui brille d'un éclat particulier et que les autres n'ont pas. Je vous le dis en passant, les deux autres couronnes sont celle de la virginité et puis celle des docteurs de la foi. Monseigneur Lefebvre aura eu certainement la couronne de docteur de la foi. Et les autres sont au ciel, les élus sont au ciel, mais ils n'ont pas une de ces trois couronnes. Ce combat nous est avantageux. Il ne faut pas regretter la situation dans laquelle le bon Dieu nous met. Ne faites pas comme le petit lieutenant qui était amoureux de la fille du colonel. Non, il n'était même pas lieutenant, je crois qu'il était... Oui, le petit lieutenant. Et le colonel portait une particule, c'était un grand nom de France. Et ça ne se fait pas qu'un petit lieutenant cherche à épouser la fille du colonel, surtout que le petit lieutenant était de très humble extraction. Et le colonel avait remarqué, parce qu'il était fin et psychologue, il avait remarqué ce petit lieutenant, et il se disait, j'aimerais bien le donner à... C'était même pas un lieutenant, je crois que c'était un sergent. Et j'aimerais bien donner ma fille à ce petit sergent, parce que tous ces petits bourgeois qui se croient arrivés, qui n'ont pas de vertu, qui ne me plaisent pas pour ma fille. Ce petit sergent, il est de modeste extraction, mais il a de la vertu. Et avec ma fille, ils auront de bons enfants. Alors, le colonel appelle son chef d'état-major. Il y avait une opération très difficile, dangereuse, mais surtout difficile et délicate à mener. Et il dit, vous la confiez au sergent un tel. Alors vous avez deux possibilités de la part du sergent. Oui, le colonel, il a repéré que j'aimais sa fille, et puis évidemment, vu son niveau, sa situation, il ne veut pas me la donner... c'est pas normal, il est méchant envers moi, mauvais envers moi. Bon, peut-être même que dans ce cas-là, on pourrait être tenté de dire un gros mot. C'est la révolte. C'est la révolte, inutile de vous dire que dans ce cas-là, le colonel va se dire, eh bien, le sergent m'a bien déçu. Effectivement, il n'aura pas la fille. Et sinon, vous avez le sergent qui ne se pose pas de questions. Et qui admire son colonel. On ne peut pas admirer la fille sans admirer le père. Et il admire le colonel, et le colonel lui confie une mission difficile, délicate. Eh bien, il sera à la hauteur de la situation. Il se donne effectivement du mal avec intelligence, et quand il l'a réussi, eh bien, il a gagné non pas la Légion d'honneur, parce que c'est réservé aux officiers, mais la médaille militaire. Et alors, une belle décoration extraordinaire. Et tout le monde admire cela. Et puis, évidemment, il a gagné le grade de lieutenant, de sergent qu'il était devenu. Il a fini par devenir lieutenant. Et puis, le colonel le fait appeler et lui dit « Je sais que vous aimez ma fille. Eh bien, je suis fier de la donner à un garçon de votre valeur. » Et tous les autres officiers qui auraient bien aimé épouser la fille du colonel sont obligés d'admettre que le colonel a fait le bon choix et qu'ils ne peuvent pas prétendre rivaliser avec ce sergent devenu lieutenant et décoré de cette si belle décoration. Alors, vous voyez, nous avons tendance, nous, à nous révolter et à ne pas comprendre que le bon Dieu nous confie des missions, non pas parce qu'elles sont difficiles, le bon Dieu n'aime pas la difficulté pour la difficulté, il aime les missions belles. Et il nous confie une belle mission. Alors, sachons le reconnaître. Une autre application que je voulais faire, c'est en éducation. Tout éducateur imite le bon Dieu. Par conséquent, tout éducateur doit mettre les enfants au combat. Il y a des combats qui sont à leur portée et d'autres qui ne sont pas à leur portée, ça c'est une autre affaire. Mais tout éducateur doit mettre les enfants au combat. Et on a été très surpris quand j'ai conseillé, déjà il y a un an ou deux, de mettre les enfants dans des écoles professionnelles par exemple. Combien de parents m'ont dit « mais vous ne vous rendez pas compte, le milieu dans lequel vous les mettez ». Et les conseils que je donnais sont la simple application de la méthode divine. Vos enfants ont été bien élevés, ou alors, monsieur, madame, c'est qu'il y a un réel problème. Vous leur avez donné un réel amour de Dieu, vous leur avez donné le baptême, la confirmation, la communion, la confession, la communion. S'ils ne sont pas capables de vivre dans le monde, avec votre aide, puisqu'ils sont encore mineurs, s'ils ne sont pas capables de vivre dans le monde, s'ils ne sont pas capables d'affronter les difficultés du monde, alors, mais qu'en ferez-vous quand ils seront adultes? Et ce combat, vous voyez, est absolument nécessaire, et c'est certainement une des choses essentielles à enseigner à un jeune, qu'il y a plusieurs choses essentielles, mais une des choses essentielles, c'est celle-ci, la vie est un combat dans lequel ta vertu doit briller, sinon tu seras la victime du démon. Alors, les démons sont conscients de cet enjeu, et ils font tout pour faire tomber les hommes. Il y a les moyens les plus classiques que vous connaissez. Le démon se cache. Il se cachait déjà derrière les journaux. Ce n'est pas nouveau. Alors maintenant, il se cache derrière Internet. Et il se cache derrière tout ce qui brille. Il se cache dans la révolte du monde moderne. Enfin, peu importe, tout ça, vous le savez. Ce à quoi je voulais vous encourager, c'était à deux choses. C'était à vous rassurer dans la lutte, à vous encourager à gagner la couronne que le bon Dieu veut pour vous. C'était également à vous rappeler que le devoir de tout éducateur est d'enseigner à tous les jeunes de lutter pour la gloire de Dieu. Celle qui nous apprend le plus à lutter, la meilleure éducatrice qui soit, c'est évidemment la Très Sainte Vierge. La Sainte Vierge a pour principal souci le règne de Jésus. Et pour que Jésus règne, elle forme ceux qui vont accomplir sur terre le règne de notre Seigneur. Parce que notre Seigneur est venu chasser le démon de son règne. L'air appartient au démon, mais le ciel, la terre, tout appartient à Dieu. Et Jésus-Christ se trouve, descend dans les airs et sur la terre. Il réunit autour de lui tous ceux qui veulent se battre sous son étendard pour rejeter le démon dans les enfers, pour redonner la couronne, pour redonner son royaume à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment cela l'enjeu. C'est grâce à Jésus-Christ, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons un chef qui nous donne la victoire. Nous ne sommes pas seuls pour lutter. Et la Sainte Vierge nous amène à ce combat. La Sainte Vierge nous encourage en nous montrant la beauté de ce combat. Alors, en ce mois du rosaire, je vous invite, mes bien chers frères, et vous, mes chers enfants, j'espère que vous avez quand même, les plus jeunes, retenu ce que j'ai dit à vos parents, sinon vos parents vous l'expliqueront. Je vous invite à être bien fidèles à cette arme surpuissante qu'est le rosaire. Je vous invite à être fidèle à votre méditation, je vous invite à vous battre, à savoir vous battre, à être fier de notre Seigneur Jésus-Christ, et de Marie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.